France Inter.
Hubert Haddad, bonjour.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Illumination, Rimbaud. Mais je trouve que c'est un peu prétentieux. Alors, je vais dire le premier auteur, le premier poète à avoir écrit des vrais poèmes en prose moderne, Gaspard. Gaspard de la nuit,
Gaspard
c'est le recueil qui s'appelle.
Oui, c'est magnifique.
Aloysius Bertrand, donc.
Pourquoi écrivez-vous ?
Je ne me suis jamais posé la question. Vers 15-16 ans, c'était la seule porte qui m'était ouverte, disons.
Votre mot préféré de la langue française ?
C'est une question extrêmement difficile, mais je vais aller à la simplicité, liberté.
Le mot que vous aimez le moins ?
À l'opposé de liberté, race.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassem.
Bienvenue dans l'émission Etc. Aujourd'hui, un passionné de littérature qui est lui-même romancier, essayiste, poète, peintre. Hubert Haddad est avec nous pour deux livres, une réédition de son encyclopédie littéraire, Le Nouveau Magasin d'écriture, et son dernier roman, La Symphonie Atlantique, paru à l'automne sur les traces d'un enfant allemand virtuose face à la barbarie nazie. Dans Le Nouveau Magasin d'écriture, Hubert Haddad propose un atelier d'écriture géant sur papier. On y trouve des exercices littéraires, cadavres exquis, dialogues oniriques, exercices d'invention, mais aussi des listes de lecture, des réflexions plus générales sur les différents genres littéraires et des conseils concrets d'écriture sur la forme, les personnages, les dialogues. Bref, ce livre est devenu ma Bible à l'instant même où il est arrivé sur mon bureau et il en a la taille d'une Bible puisqu'il fait environ 1000 pages. On va essayer d'aborder plusieurs questions littéraires aujourd'hui avant d'évoquer votre dernier roman, Hubert Haddad, La Symphonie Atlantique. Très beau livre sur la fragilité des liens humains à l'orée du chaos dans une Allemagne hantée par la neige, le silence et la menace politique. Nous recevrons aussi, comme chaque semaine, nos libraires pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Rebonjour, Hubert Haddad. Puisque vous jouez dans votre livre, on va jouer. Petit cadavre exquis rapide, un nom commun qui vous vient là tout de suite.
Radio.
Et un complément circonstanciel de lieu.
Ranlag.
Ranlag. Et ben, j'ai choisi le verbe dormir, ça donne donc la radio dort dans le Ranlag. Alors voilà, c'est l'un des jeux qu'on trouve dans votre magasin d'écriture.
On choisit tous les mots qu'on veut. Là, j'étais un petit peu...
C'est bien, c'est spontané.
C'est spontané. C'est un fleuve, le Ranlag.
À quoi ils servent tous ces petits jeux spontanés que vous proposez ?
Il y a toutes sortes de jeux. Hein. Il y a les jeux de déconditionnement. Il faut se mettre en situation de désassujettissement par rapport à la langue. Le problème... qu'on a dans les ateliers d'écriture, mais aussi dans toute situation, sur le plan scolaire, sur tous les... C'est que les gens sont devant la langue comme si c'était un objet extérieur à eux. C'était une chose extérieure à eux. C'était un mur qui était là. C'était une altérité menaçante. Mais non, alors c'est cela qu'il faut bien... intérioriser. Nous sommes le langage. C'est nous, le langage. C'est chacun est langage. Et à partir du moment où ça s'est compris, admis par des jeux comme ça, où il y a une fête avec la langue, avec le langage, avec tous les mots, tout le lexique, toutes les formes possibles, eh bien, on commence à s'ouvrir à notre grand partage qu'est l'imaginaire.
Derrière le hasard et l'arbitraire, l'inconscient veille. C'est une phrase que vous écrivez dans votre livre. Vous prenez l'oubli du sens. Mais comment on fait pour que ça ne devienne pas n'importe quoi ?
L'oubli du sens, c'est pas, c'est une petite parenthèse au départ. Quand on est face à la feuille blanche, on a le sens, le sujet. Et on est bloqué par cela. Particulièrement dans le domaine, évidemment, du récit, du roman, même de la pensée, même de la poésie. Pour pouvoir accéder entièrement à l'espace de l'imaginaire, il faut oublier après, au départ le sens. C'est ce que je faisais avec, c'est ce que j'ai fait longtemps avec des enfants à Reims en pédopsychiatrie, des enfants qui étaient traumatisés de scolaire et qui venaient là parce qu'ils rien, on pouvait rien tirer d'eux, rien, c'était pas possible. Et avec, je mettais sur la table de la poésie, mais de pas des des poèmes pour enfants, les poèmes pour enfants.
Et ça aidait, et ça les aidait pourquoi?
Ça les aidait parce que tout d'un coup, je leur dis, mais vous oubliez le sens. Alors qu'on leur a toujours imposé un sens. Un sens qui signifie plein de sens interdits. Et alors, ils prennent les livres et ils lisent quelques mots comme ça. Parfois, certaines phrases, ils ouvrent le livre, c'est l'heure de dormir. Parfois, certaines... je prends un livre, parfois, certaines phrases, c'est, ou bien au-delà des invectives, abattre des mains quand on aura fini avec les bons mots. Quand on en aura fini avec les bons mots.
Et ça, ça permet quoi ? Qu'est-ce que ça permet ?
Ça permet de libérer déjà, d'être dans la scansion, dans la musique des mots. Et petit à petit, le sens va revenir. Quand cela est acquis, par plein de jeux, des chambres d'écho, eh bien, il se retrouve avec les livres et avec... Le langage, il n'est plus extérieur, il n'est plus une menace, il est en eux, et il y a une libération.
Vous pensez que tout le monde peut écrire ?
Bien entendu. Tout le monde, pourquoi tout le monde peut écrire ? Mais si tout le monde... à partir du moment où on est dans l'espace symbolique, les uns et les autres, c'est-à-dire on est dans
C'est vrai que vous animez des ateliers d'écriture pour tout le monde, dans les prisons, pour les enfants...
Oui, j'ai déjà travaillé dans... En fait, à 15 ans, j'écrivais des poèmes. Je viens de l'immigration, j'avais aucun livre à la maison, j'avais rien. Et j'avais simplement l'altérité, une fois, à Ménilmontant, l'école primaire, d'abord les petites écoles, et puis les récitations, et puis un frère aîné qui apportait des livres, de la musique, qui a eu une aventure tragique après, parce que c'était un grand... pacifiste qui est parti en Israël et qui a tout tenté. Puis bon, ça j'en ai parlé dans mon roman Palestine. Et donc, je suis la preuve vivante qu'on peut venir sans livre, sans rien, sans aucun bagage, et devenir écrivain. C'est pour ça que ça m'amuse beaucoup l'élitisme. Les gens qui s'imaginent être nés écrivains dans le ventre de leur mère. J'ai entendu des choses pareilles. Non, tout le monde, à partir qu'on a accès au langage, on a accès à l'essentiel. Tout le reste est nuance.
Au sujet des ateliers d'écriture en prison, vous citez une phrase écrite par un détenu. « La vérité me fait très mal, elle est la moitié d'un crime. » J'ai trouvé que c'était très beau. Et pour avoir animé moi-même des ateliers en prison, je me souviens d'un détenu tout jeune qui avait écrit une phrase que j'ai pas oubliée non plus. Il disait « La prison est comme un cercueil où je vois ceux qui viennent fleurir ma tombe.
Oui. »
Ça m'a marqué. Et vous dites vous-même que jamais vous n'avez plus entendu qu'en prison les mots vérité, amour, solitude, temps et mystère. Comment vous l'expliquez ?
En prison, c'est un endroit où on lit beaucoup de poésie, on écrit beaucoup de la poésie. Pas seulement pour envoyer à sa fiancée perdue, parce qu'on est dans la... on est démunis, on est dans une solitude ontologique totale. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste l'essentiel. Il reste se retrouver dans la présence, essayer de perdu. On essaye de se une fois qu'on est vraiment perdu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se rattraper aux branches, se rattraper de l'arbre de la vie. C'est ce qui se passe en prison. Et j'ai évidemment travaillé longtemps à la prison de Reims, par exemple, à la prison de Châlons en Champagne, à la prison de Tours, dans différentes prisons. Et j'ai été très bouleversé. Je crois que la phrase que vous avez dit, c'est un peu ce qui s'appelle... on ne doit pas dire les noms, vous savez. Il était très émouvant parce qu'il était mutique. Et puis tout d'un coup, il écrivait quelques phrases, un texte comme ça. Ce qu'ont fait les prisonniers... en tant qu'intervenant, comme ça, c'est pas notre problème. On ne veut pas savoir. On essaie de retrouver l'être chez les personnes qui sont là pour un temps ou pour toujours. Ou...
Et cette phrase, elle vous a touché?
Oui, cette phrase et d'autres, il y a quelques poèmes qui sont vraiment d'une intense beauté. Ça m'est arrivé de pouvoir publier des poèmes de prisonniers. Mais quand il a été libéré, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait nulle part où aller. Il avait une maladie, il avait un cancer. Il est allé dans un hôtel quasiment en face de la prison. Et il est mort quelques jours après dans sa chambre de prison, comme ça. Donc il a fait le cycle de l'abandon, de la déperdition, de la solitude. Ça bouleverse.
Hubert Haddad, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre cet atelier d'écriture en votre compagnie. Mais avant ça, on écoute François and the Atlas Mountains, Le Fil.
J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet de vie s'enfuir à jamais. La foule folle alliée, tribu de cinglés. Je vais prendre les choses en main, pour leur faut juste se tailler, se tailler, se tailler. Mais les voiles plient sous le poids des années. Les mains sont un fatras de combine alambiquée. Courir vers toi un temps, le temps de tout dépenser. Au pied d'un mur d'argent, s'évader dans ses pensées. Respire le parfum de tes cheveux, si le moment se prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Cette fille agile, déroule en même le fil. J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet passé entre les mailles du filet. Tu dis que je saute des cases, mais je vais pas seul poireauter. Je passe de point de paouté, GPS coordonné. Je m'en cogne, mon cœur est une boussole. Je suis magnétisé. Parfum de tes cheveux, si le moment se prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Un peu, le style qui pline entre les cils, cette fille agile, déroule et remède le fil. Entre les cils, cette fille agile, déroule et remède le fil. Un peu le style qui cligne entre les cils, cette fille agile, déroule et remède le fil.
Vous écoutez etc. et nous sommes toujours en compagnie du romancier et pionnier des ateliers d'écriture en France, Hubert Haddad. Ça fait combien d'années, Hubert Haddad, que vous pratiquez les ateliers d'écriture?
J'ai commencé au début des années 70. Je ne savais pas ce que c'était vraiment les ateliers. Je savais qu'on est dans les universités américaines, des étudiants qui sont devenus des écrivains célèbres ont participé à
C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est assez répandu.
Comment ?
Aux États-Unis, c'est très répandu.
C'est
en
très,
France,
très répandu.
C'est
parce qu'aux États-Unis, d'une certaine manière, il n'y a pas cette espèce d'aristocratie où l'écrivain doit être né de. Voilà, il doit être né. Aux États-Unis, on est écrivain tout d'un coup, on écrit un roman et puis on peut très bien après faire autre chose. C'est pas sacré, quoi. Tandis qu'ici, pour deux raisons antiques, c'est quand même si on accède à l'édition. Et bien,
une sorte de Graal.
Voilà, une sorte de Graal, comme ça. Ce qui est un peu idiot, parce que, bon, il y a peu d'élus, hein, par siècle, il y a vraiment peu d'élus. Mais écrire, c'est très bien, tout le monde doit écrire. Il y a un pays, c'est l'Islande, ils sont 200 000 ou 300 000 habitants maintenant, peut-être. La moitié, c'est des écrivains.
Ah bah c'est formidable. Vous dites que l'atelier d'écriture sert à raviver les circuits de l'imaginaire. Quand vous voyez la littérature contemporaine, est-ce qu'on valorise tant que ça l'imagination ?
Non, l'imagination, c'est la petite sœur pauvre de la littérature aujourd'hui. Alors que l'imagination, en Amérique du Sud, dans les siècles passés, dans les siècles baroques, au XVIe siècle, c'est l'essentiel, l'imagination. L'imagination n'est pas l'imaginaire. Hein. Bon, l'imagination, c'est un outil. C'est un outil pour accéder à l'imaginaire. L'imaginaire, c'est
l'imaginaire, on l'a tous.
L'imaginaire, on l'a tous, mais on ne sait pas quoi en faire.
Et
mais avec le travail de l'imagination, on peut accéder à cet
espace. Et pourquoi il y a moins de romans d'imagination aujourd'hui ?
Parce que nous sommes dans en France, actuellement, les choses changent. Hein. C'est un peu long. C'est-à-dire que le réalisme et le naturalisme, le réalisme particulièrement, qui est flaubertien, il y a eu Flaubert, bon, voilà. Et ensuite, il y a eu des rétrécissements. Le naturalisme, un Zola, mais il a un imaginaire formidable. Il n'a pas peur des métaphores, il n'a pas peur des descriptions. Il est hugolien.
C'est un appauvrissement de l'imaginaire ?
Il y a un appauvrissement volontaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu peur du langage. On a eu peur du langage, pourquoi ? En partie, je ne veux pas catégorique, mais après la guerre, il y a eu, antérieurement, la France était pas mal antisémite. Hein, et on avait l'antisémitisme était partout. Une anthologie de l'antisémitisme chez les écrivains antérieurs, c'est affolant.
Il y aurait de quoi faire.
C'est affolant. Il y a des pages des uns et des autres, des écrivains qu'on aime. On est désolé de voir ça. Et puis il y a eu la collaboration. Il y a eu Pétain. Il y a plein d'écrivains ont collaboré. La famille, surtout, les parents, les écrivains après-guerre français.
D'autres courants, justement.
Il y a eu d'autres courants, mais je parle là de pourquoi l'autosuffisance égotiste dans une espèce d'appauvrissement inouï de la langue pour dire...
Et cet appauvrissement, il a été revendiqué.
Mais pour dire presque rien. C'est devenu tautologique. Le langage est là pour le roman est tautologique.
Et pourquoi ça revient pas ? Parce que bon, l'après-guerre, bon, c'est une période récente, mais quand même lointaine aujourd'hui. Pourquoi ça revient pas ?
Mais ça va revenir, bien entendu. Puis on a eu des exemples. Et il y avait parallèlement un courant souterrain, ou bien stellaire.
Oui, il y a eu surréalisme.
Il y a eu le nouveau roman. Oui. Et bon, le nouveau roman, maintenant, l'université s'empare de tout ce qui est théorique. Elle a besoin de ça. L'université s'est emparée de tout ce courant du nouveau roman que le structuralisme dans la littérature a poursuivi. Puis il y a des ersatz actuellement. Après, on a passé à l'autofiction. Bon, l'autofiction, pourquoi pas ? L'autofiction, ça date des origines. Hein, l'autofiction, Rousseau c'est l'autofiction, Saint-Augustin c'est l'autofiction, c'est de la grande littérature. Mais là, c'est sur des petits domaines comme ça, avec des revendications légitimes.
Mais vous qui aimez l'imagination, est-ce que vous trouvez quand même qu'on est carencé ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, sauf en
La littérature étrangère, peut-être.
La littérature étrangère. Voilà. Mais la littérature étrangère, c'est la littérature française, dès lors qu'elle est traduite. Et donc, finalement, cette compensation, ce n'est pas une compensation, c'est qu'on lit de la littérature d'imaginaire et d'imagination sans cesse, en concurrence avec ce qui, justement, pour l'instant, est un petit peu dans un encéphalogramme plat. Parce qu'il y a les traducteurs. Et les traducteurs, ça peut être des écrivains. C'est souvent des écrivains.
Oui, donc on peut toujours lire de la littérature, voilà, de l'imagination.
Voilà, et cette transmission, elle est formidable.
Thomas Auxerre, je vous vois réagir.
Oui, c'est vrai. Alors, j'entends
en tant que libraire, parce que,
oui, en tant que libraire.
Vous êtes libraire à la librairie Lamandier à Puteaux et vous êtes avec nous en studio.
Oui, tout à fait. Alors, j'entends ce que dit Hubert. Moi, l'imagination, je la vois peut-être, alors pas forcément dans la littérature française. Citadine, voire un peu de Saint-Germain, comme on disait il y a quelques années, mais peut-être dans la littérature francophone. J'ai l'impression que la littérature francophone, littérature mondiale, caribéenne, africaine, enfin voilà, même on peut penser à la Polynésie, etc. Là, il y a des imaginaires incroyables. Enfin,
moi, volcanique, pour le coup.
Volcanique, voilà. Mais sinon, oui, peut-être un peu plus d'imaginaire ou d'imagination, ouais. On aimerait, c'est sûr.
J'ai une petite parenthèse. J'anime une revue qui s'appelle Apulée, qui fait 500 pages, où il y a où la littérature d'imaginaire est prioritaire. Et dans le numéro va apparaître en mai, c'est la littérature des aborigènes d'Australie, la poésie des Caraïbes anglophones, tout ça est traduit par des amis, par des gens qui... Et c'est formidablement une puissance d'effraction d'imaginaire extravagante.
On va suivre ça. Ouais. Thomas Auxerre, puisque vous êtes là. En tant que libraire, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur le nouveau magasin d'écriture d'Hubert Haddad.
Oui, bah alors là, Hubert, moi j'étais passé à côté quand il était paru une première fois en 2006, car je n'étais qu'un petit bébé libraire à l'époque. Je me suis donc attelé à la tâche pour cette nouvelle édition. Eh bien, je n'ai vraiment pas été déçu. Je l'ai pas lu d'une traite, parce qu'il est long, 1000 pages, comme disait Lilia, mais je l'ai picoré. J'ai fait des allers-retours entre les chapitres et le sommaire. Je me suis, avec aussi plaisir, perdu dans les pages. L'édition est très belle avec ses illustrations, et je dois dire que c'est absolument vertigineux d'érudition. Quel que soit le chapitre abordé d'ailleurs. Finalement, votre livre n'a aucun équivalent contemporain, à ma connaissance. Et puis, je dirais que votre magasin a les rayons vraiment bien remplis. Et je vois pas comment une personne qui souhaiterait écrire ou s'intéresserait à l'écriture n'y trouverait pas son compte. Enfin, pour moi, vous avez vraiment créé un livre unique et extraordinaire.
Et vous aviez une question, Thomas, pour Hubert.
Oui, d'ailleurs, j'ai une question, parce que vous évoquez souvent ce livre comme un bon support d'atelier d'écriture, en tout cas c'est ce que je me suis dit, voilà. Comme la première édition date un petit peu, est-ce que vous avez eu des retours de participants à l'un des exercices proposés ?
Oui, il y a pas mal de retours, d'autant que sur le site des Éditions Ulma, il y a des ateliers... comme qu'on peut faire comme ça directement, c'est des jeux comme ça qu'on prend le site, on rentre et puis on se laisse écrire et on écrit, ça va ensemble, des textes, et ça vient tout seul, à la grande surprise de la plupart des gens qui interviennent. Il y a eu toute une équipe là d'un millier de personnes qui s'y sont mis dernièrement.
Ah oui.
Ça a donné donc 1000 poèmes.
Ah oui.
Et c'est quelque chose qui permet tout d'un coup de prendre conscience des possibilités de où on est dans la langue. Quand on écrit qu'un écrivain, un romancier, un poète, eh bien, il est dans une posture où il faut surtout pas retomber dans les clichés, dans les sillages, il faut sortir de cela. Comment sortir de cela? Eh bien, c'est à chaque fois en tordant la langue, en se laissant surprendre.
Et puis en expérimentant.
Laissant surprendre, comme disait Paul Valéry, la poésie, c'est quoi la poésie? C'est d'abord de la surprise. Non, c'est pas suffisant. C'est de la surprise. et c'est ce que j'essaye de faire, cette surprise, avec ce nouveau magasin d'écriture et avec son petit frère.
Il y a beaucoup de surprises dans ce livre.
Justement, Hubert, oui. J'avais peut-être une deuxième question un peu plus indiscrète, peut-être, mais comme il y a une version entre 2006 et celle-ci là, qui vient de paraître, est-ce que vous avez fait des changements? Est-ce qu'il y a eu une réécriture, peut-être, de certains chapitres?
Non, il y a des petits rajouts, des petites modifications, mais rien d'essentiel. D'accord. Ça reste la base.
Ah, oui.
Et le nouveau, c'est à partir de l'illustration, surtout symboliste, surréaliste, où il y a encore plein de stratégies pour écrire, de mise en place, mais c'est aussi pour lire. Les gens trouvent leur compte.
Puis c'est amusant.
Parce que dans la rêverie, on peut écrire dans la rêverie sans prendre de stylo. Tout d'un coup, et puis on peut aussi faire sa propre création, parce qu'on prend une page, un exercice donné, c'est pas des exercices, c'est pas scolaire. Et puis on va dans une autre et on fait tout d'un coup une hybridation des deux et ça donne un nouvel...
C'est ce que j'allais vous demander,
nouvelle stratégie.
Hubert Haddad, parce que votre magasin d'écriture est parfois ironique. Vous faites des listes de phrases qui pourraient être des incipits de romans. Par exemple, je déchirais la lettre sans l'ouvrir. On peut imaginer la suite. Vous donnez des titres de livres en vrac, et c'est vraiment un magasin dans lequel on peut servir, assembler des éléments,
oui, oui.
Des trucs et astuces. Et pourtant, ça ne fera jamais un roman. Qu'est-ce qui manque ?
Pour faire un roman avec...
Ah oui, parce que vous mettez des titres, des incipits, des citations.
Le roman.
Qu'est-ce qui manque ?
Il manque la passion d'une subjectivité en acte. Il faut, après tout ça, on peut se promener, faire plein de choses, mais on rassemble un matériel, un matériau. Et souvent, dans les ateliers d'écriture, je procède comme ça. Bon, il y a une phrase qui me plaît beaucoup d'André Gide, appliquée à l'écriture. L'art est une idée qu'on exagère. L'art est une idée qu'on exagère.
Très, très beau.
Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, il y a un cinéaste, un grand cinéaste, Bergman, il a pris un dicton, un orgelet dans l'œil du diable. La virginité d'une jeune fille, c'est un orgelet dans l'œil du diable. Et il a fait un film, un long métrage, qui est désopilant, où on a un pauvre diable qui a un orgelet, qui est malheureux comme tout.
Comme les films de Buñuel, un peu.
Voilà, voilà. Et vous voyez, vous prenez... Moi, j'ai écrit... Il y a une phrase de... Un vers. Avec un vers, vous faites un roman. À partir du moment où vous déployez la métaphore.
Mais parfois, il ne faut pas être trop gourmand, en réalité.
Non, mais bon, ici.
Il faut être simple mais dans
oui,
les
mais on
idées,
est simple, mais
avec
mais
gourmandise. Voilà.
On a rien, on est libre, on est avec de l'incréé, qui n'a rien à voir avec le divin. On peut tout faire.
Vous êtes quand même contre l'idée de partir d'un sujet, par exemple.
Mm-hmm.
Ça, ce n'est pas quelque chose qui vous plaît.
Le sujet ?
Oui.
Mais le sujet advient. Le sens advient à nous. Souvent, on est bloqué parce qu'on a une idée, un sujet, et on est figé par nos peurs, par notre moralité, par nos censures. Et ça bloque, terriblement. Alors si on arrive à dépasser cela tout d'un coup, faisant connaissance avec soi-même, c'est-à-dire, pour faire connaissance avec soi-même, il faut accéder aux portes de son inconscient, au subconscient.
Il faut faire une psychanalyse ?
Peu importe.
Vous avez un chapitre sur la psychanalyse.
Non, mais la psychanalyse, ce n'est pas la psychanalyse n'a rien inventé. La psychanalyse, Novalis déjà parlait d'inconscient et de... c'est l'humain. L'humain, c'est l'imaginaire.
Et comment on fait pour faire connaissance avec soi-même ?
Pour faire connaissance, il faut surtout essayer de sortir de toutes les tortures infligées, qu'on s'auto-inflige à soi et aux autres. Et puis se retrouver dans une certaine nudité, une certaine simplicité. Et puis essayer de trouver le diapason, la musicalité. C'est souvent par la musique, c'est par le rythme, par la musique qu'on laisse venir les mots, qu'on laisse venir les phrases, et puis cette musique-là, cette petite musique, cette mélodie qui est la
nôtre,
et bien elle va nous ouvrir le chemin.
Cette mélodie, c'est
de notre intériorité.
Cette mélodie, c'est ce qu'on appelle le style, ou c'est différent?
On peut appeler ça le style, ce mot détesté. Pourtant, le style, c'est pas l'homme, le style. Le style, c'est l'écriture, c'est le rythme, c'est la vie.
C'est la voix.
C'est la voix, oui.
Hubert Haddad, vous la jouez Rainer Maria Rilke un moment dans votre livre avec votre chapitre Conseil à un jeune écrivain.
Oui.
Je vous propose de nous en lire un extrait.
Pour récapituler, prendre son temps autant que possible, laisser refroidir, prendre ses distances avec le texte, qu'il devienne un peu étranger à vos obsessions, ne jamais achoper sur un manuscrit 20 fois refusé, même s'il est génial. Ne pas confondre plaisir de lire et plaisir d'écrire. Le plaisir du lecteur n'est pas de même nature que le plaisir de l'écrivain. On peut souffrir le martyr ou s'éclater sur un texte sans valeur littéraire. Et pourquoi forcément s'embarrasser d'une carrière d'auteur, la plupart du temps source de dépression, de jalousie insolvable et d'amertume? Écrire peut être aussi un plaisir solitaire. Il y a un drame incalculable chaque matin dans les boîtes aux lettres des éditeurs. Ces milliers de manuscrits qui eussent pu rester chacun une aventure intérieure, une expérience, comme la traversée de l'Himalaya ou un séjour au Mont Athos, au lieu de finir en requête égocentrique.
Ah oui, il y a une phrase qui m'a fait rire. Ne jamais achoper sur un manuscrit 20 fois refusé, même s'il est génial.
Bien sûr, parce qu'il faut écrire un autre livre. Et puis après celui-là...
Vous croyez vraiment qu'un manuscrit génial peut être refusé 30
fois? Oui, absolument.
Fois
absolument. Il y a une phrase admirable d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est Malcolm Lowry, qui, dans sa chambre, punaisait toutes les lettres de refus. Hein, avait le mur de sa chambre était étoilé de lettres de refus. Et puis il a écrit une phrase comme ça, mais que tout écrivain... Qui commence, même parfois qui finit, ça lui va droit au cœur. La mort comparable à un manuscrit refusé.
C'est une phrase qui va parler à beaucoup d'auditeurs, je pense, et qui nous rassure aussi. Hubert Haddad, on se retrouve dans quelques instants pour parler de votre dernier roman.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras. Tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au eux dans l'eau.
Vous écoutez, etc. C'était Serge Gainsbourg en relisant ta lettre. Et nous sommes toujours en compagnie de l'essayiste et romancier Hubert Haddad. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Hubert Haddad, votre dernier roman s'appelle La Symphonie Atlantique. Comment on trouve un bon titre?
Comment on trouve un bon titre? Au fond, c'est peu importe que le titre soit bon. Certains
Si, c'est important.
Certains penseurs pensent, certains écrivains pensent que, essayistes pensent que si le titre est trop bon, c'est douteux.
C'est suspect.
C'est suspect. Regardez.
Pourtant, les romans de Kundera ont des titres magnifiques.
Oui, c'est des. Si on veut.
Vous n'êtes pas convaincu. Je sais pas. C'est un peu grandiloquent pour.
Non,
si, expliquez-nous,
pas,
c'est intéressant.
Mais tout est possible avec le titre. Mais c'est, l'important pour le titre, c'est que ça résonne en vous. C'est souvent, eh bien, le titre devient une évidence pour l'auteur, pour l'écrivain qui écrit, qui va se mettre à écrire un roman, ou bien qui a écrit un roman, il attend. Mais il y a les écrivains qui ont besoin du titre pour écrire leur roman. Sans le titre, ils ne peuvent pas commencer.
Ce n'est pas votre cas ?
Ça arrive que ce soit mon cas.
Et là, pour ce livre aussi ?
Pour ce livre-là, j'avais noté, parce que j'ai des carnets toujours, j'ai toujours des carnets, je note, c'est dans un espace d'attente, comme ça. Il y a un espace d'attente qui est voilà, des papiers, des choses. Et j'avais mis dans un coin la Symphonie Atlantique. Mais je ne pensais pas du tout que ce serait le titre du livre, parce que mon idée, c'était tout devait se passer en Allemagne. Dans l'Allemagne, entre 1933 et 1940. Et puis tout d'un coup, c'était évident que non, il y avait une issue au roman. Et le titre, souvent, c'est la chute qui vous manque. Ce qui fait le titre, c'est la chute.
Donc il faut attendre d'écrire le livre pour savoir.
Et puis il y a des titres qu'on traîne pendant 20 ans avant que...
Vous en avez ?
Oui, j'ai écrit un roman sur le ghetto de Lodz. Sur une chose invraisemblable, épouvantable, qui est d'ailleurs en pendant à celui-là, puisqu'il s'agissait vraiment enfin, je veux pas m'étendre, mais enfin, le titre, c'est Un monstre, un chaos. Et je croyais, j'avais noté ça il y a 20, 30 ans, je sais pas, il y a peut-être même davantage, et je pensais savoir. D'où je l'avais tiré. Je pensais que c'était une phrase de Pascal. L'homme sans religion n'est qu'un monstre et un chaos. Mais pas du tout, il n'a jamais écrit ça, Pascal.
C'était dans votre texte.
C'est un mix avec une autre phrase de Nietzsche qui adorait Pascal. Et finalement,
c'est du Hubert Haddad.
Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que tout s'hybride, se métamorphose, et ça, il faut l'accepter.
Vous citez plein de titres dans votre magasin d'écriture, Le Manège Noir, Le Chirurgien des Ombres, tous ces titres inventés, L'École des Geôliers. Un bon titre, c'est un titre oxymorique ?
Souvent oxymorique, pas chez Flaubert. Parce que déjà, dans l'oxymore, il y a la métaphore. Dans la métaphore, il y a la poésie. Ce déploiement possible. Comme je vous disais, une métaphore, on la déploie, puis on a un récit, on a une histoire.
Il faut laisser un espace de liberté au lecteur à ce moment-là, d'ouverture.
Absolument, oui.
Et c'est comme des points de suspension.
Hein. Oui.
J'aimerais qu'on parle désormais de votre roman, La Symphonie Atlantique, où l'histoire d'une femme qui, avant son internement psychiatrique, confie à son fils un violon précieux, héritage familial, qu'elle considère comme son âme, et dont elle lui demande de ne jamais se séparer. Ce violon deviendra une sorte de jumeau pour l'enfant dans la période de la montée du nazisme en Allemagne. Votre roman est très musical, avec des motifs, des reprises, des silences. Vous avez pensé ce livre comme une partition ?
Oui, ce roman, c'est sur la musique. Oui, mais c'est sur la musique pendant la guerre. Et pourquoi ? Là, il y a aussi une sacrée opposition. On est en 1943 en Allemagne.
C'est l'opposition qui vous est venue d'abord ?
Fatalement, puisqu'il s'agissait de parler de quelque chose d'impensable, et pour cela on a besoin d'une antinomie. Pourquoi un enfant pour parler du nazisme, pour parler de l'épouvante de ce qu'a été le Hitler et le nazisme, mais aussi pour parler d'une chose qui est un peu occultée et qui est parce qu'elle est omniprésente, c'est-à-dire que c'est la technique qui de la guerre qui maintenant semble où on est au-delà de toute morale. c'est les bombardements, tout simplement. L'Allemagne a été bombardée, on a envoyé sur l'Allemagne les alliés. Il fallait briser. On ne peut pas parler de légitimité, mais de tragédie. Le tragique, c'est quand il n'y a pas d'issue.
Et la musique dans tout ça.
Voilà. Et il y a la musique et il y a l'épouvante de toutes ces villes allemandes qui ont été détruites à 80% avec 3 millions de bombes incendiaires. Et cet enfant qui est un petit virtuose.
Qui est blond.
Il va vivre tout ça. Comment est-ce qu'il va s'en sortir ou pas ? D'une certaine manière, oui, parce qu'il a la musique, parce qu'il rencontre des musiciens dans des lieux improbables, sous les ruines. Et voilà. Alors, je ne sais pas quoi dire d'autre.
Eh bien, Adèle, j'aimerais qu'on accueille désormais une libraire québécoise qui vous a lu. Katia Courteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire à la librairie Le Port de Tête à Montréal et vous avez eu un vrai coup de cœur pour la Symphonie Atlantique.
Ah oui, Lilia, un immense coup de cœur. En fait, je dirais que c'est l'un des plus grands livres, les plus beaux livres que j'ai lus. Hubert Haddad, d'abord, j'aimerais vous dire enchanté.
Enchanté, pardon.
Enchanté. Et je vous le dis aussi, comme on le dirait au réveil d'un long sommeil qui vous a fait vivre tant de grandes choses. Je suis entrée dans votre roman et le temps s'est arrêté. Totalement. D'ailleurs, j'y suis encore. Dès les premières lignes, j'ai été happée par la richesse et le romantisme de votre langue. Ça fait revivre toute l'atmosphère des forêts de la bourgeoisie allemande, jusqu'à l'horreur du régime nazi. C'est parfois une lecture exigeante, c'est vrai, mais c'est d'une beauté inouïe. Au fil de votre histoire, vous citez de nombreux musiciens et leurs œuvres qui accompagnent Clémence tout au long de sa vie. J'ai pris un plaisir immense à lire votre roman en écoutant chacune des sonates et symphonies citées. Mozart, Mendelssohn, Bartok, Schumann, César Franck, entre autres, m'ont aussi accompagnée en plus de Clémence. J'ai vu en Clémence ce personnage formidable, un être incapable de s'inscrire tout à fait dans le réel. Une enfance tragique et douloureuse lui a laissé comme le seul pouvoir de parole et d'exister la musique de son violon. En soi, c'était une image immensément forte et troublante. Et ça m'amène à vous demander, Hubert Haddad, si vous croyez que l'art peut sauver l'être humain.
Je pense que lorsqu'on parle de l'être humain, eh bien, on sait bien que l'être humain est créature éphémère, comme toute créature. Quand on dit sauver, c'est pas pour une éternité, une pérennité terrestre. On peut traverser ce passage, un enfant, il aura une vie entière. Et donc l'art sauve, bien sûr. Il sauve parce que c'est ce qui donne, pour le coup, le sens, mais le sens ultime. À la vie humaine. Le sens ultime, c'est-à-dire que nous sommes là dans le grand mystère d'être et que nous pouvons garder en nous le sens de la liberté qu'on essaye de nous dénier de toutes les manières, philosophiquement, militairement, de toutes les manières. La liberté, c'est simple.
La liberté est dans la musique.
La liberté est dans l'art, elle est dans la musique. Mm-hmm. Et la liberté, on l'éprouve comment là ? On éprouve comment ? Quand on nous dénie la liberté, on dit mais non, mais la liberté c'est une utopie. Oui, mais c'est la plus belle des utopies, c'est la plus belle des créations humaines. Et comment pouvons-nous lui donner consistance ? Eh bien, oui, on ne cesse de lui donner consistance. Par quoi ? Par la résistance.
L'art comme résistance. Merci Katia, on se retrouve dans quelques minutes pour votre conseil lecture de la semaine. J'aimerais redonner la parole à Thomas Hausser, qui est toujours avec nous, libraire en France, à Puteaux, car Thomas Hausser, vous aussi, vous avez lu et aimé cette symphonie atlantique.
Oui, tout à fait, Lilia. En fait, comme bon nombre des autres livres d'Hubert, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Vous arrivez, Hubert, à nous prendre par la main, comme disait Katia, à nous emmener dans ce monde chaotique et ténébreux. Et puis votre héros, le jeune Clemens, moi, il m'a vraiment profondément touché. C'est un vrai être de lumière. Je dois dire que c'est encore une fois votre écriture qui m'a emporté. J'adore vous lire parce que vous êtes de ces auteurs. J'ai surtout en tête Julien Gracq, à qui vous me faites beaucoup penser, qui ne craignent pas d'exiger de leur lecteur. Votre langue est belle. Elle est dense, originale et foisonnante. Il m'arrive aussi, grâce à vous, d'aller découvrir un mot dans le dictionnaire. Et d'ailleurs, rien que pour ça, je vous en remercie, hein, Hubert. Et alors, j'ai aussi quand même une toute petite question, hein, si je peux me permettre, un peu bizarre, mais il y a quand même la figure du fantôme, enfin hanté, fantôme, qui est encore une fois présente dans votre dernier roman. Ça avait été le cas de mémoire, hein, dans Palestine, dans Le pain d'éventail, ou dans les théories de la vilaine petite fille, entre autres. Et je me demandais quel était votre rapport avec les fantômes, Hubert.
Nous avons tous un fantôme qui nous accompagne. Certains l'appellent ange gardien, d'autres c'est plus noir. J'ai un rapport avec le mystère. Nous ne sommes pas en adéquation avec la réalité. Nous sommes décollés de la réalité. Et c'est ça, l'être de langage, celui qui symbolise que nous tous, tous ceux qui ont accès au langage, les petits-enfants, les jeunes, à partir du moment où on a accès au langage, on est... C'est où se passe le langage? Le langage, c'est convoquer ce qui n'est pas là. C'est convoquer l'absence. Et c'est pour ça qu'il y a création. Parce que si on peut convoquer ce qui n'est pas là, on peut mettre en relation les fantômes. Les fantômes, c'est-à-dire tous les êtres de mémoire, tout ce qu'on a perdu et tout ce qu'on peut retrouver.
Être écrivain, c'est être un peu médium?
On peut attribuer ce mot, mais j'ai écrit un roman qui s'appelle « Théorie de la vilaine petite fille ». Il y a en Amérique, dans l'État de New York, dans une petite ferme, il y a trois petites filles qui ont inventé le spiritisme. Et parce qu'elles entendaient des bruits. Souvent, ça craque, une vieille maison, ça craque. Et puis, on a l'impression que quelqu'un nous interpelle, que quelqu'un nous appelle. Et elles ont inventé un langage pour communiquer. Et on a voulu brûler la maison. Les gens, les fermiers autour, ils ont dit « Mais il y a des fantômes ici, ça va pas ». Et puis à la fin, on a dit, mais c'est l'Amérique, on peut faire de l'argent avec tout ça. Il y a une grande sœur qui a pris les petites filles, puis c'est toute l'Amérique est devenue spirit, et les médiums couraient partout dans l'Amérique. Il y avait des médiums partout. Et puis ensuite, Napoléon III, la reine d'Angleterre, la reine Victoria, Victor Hugo, bien sûr.
Et donc vous êtes
tout
médium?
Tout le monde était médium.
Et vous?
On est tous médiums.
Ah, très bien. Bon, bah, parfait. Hubert Haddad, on se retrouve dans quelques instants avec nos libraires Thomas Husser et Katia Courtois. Mais avant, on écoute Léonie Pernet, Paris-Brazzaville.
Thank you.
Rebienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Hubert Haddad. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Lilia Hassen, Etc.
Et nous sommes toujours avec nos libraires Thomas Auxerre. Je crois que vous aviez un petit cadeau pour Hubert Haddad.
Absolument, un cadeau. Disons Hubert que si je vous voyais entrer dans ma librairie, je n'hésiterais pas à vous conseiller le magnifique roman de Gouzel Yaknina, qui est paru là chez Phébus en poche, qui s'appelle « Les enfants de la Volga ». Alors pour vous situer ça, on est dans un petit village sur les rives de la Volga, en URSS, dans les années 20, les années 30, où la vie des habitants, qui sont des descendants d'Allemands, va être chamboulée car ils ne sont plus vraiment les bienvenus en terre soviétique. Mmh. On suit un jeune instituteur, il s'appelle Jacob, il est féru de poésie, et surtout il est amateur de contes folkloriques locaux. Il va commencer à donner des leçons à Clara. Bien sûr, alors que tous fuient vers l'Allemagne, eux tombent éperdument amoureux et s'installent dans une ferme isolée pour vivre au rythme de la nature. Comme dit la formule consacrée, le malheur ne tarde pas à frapper à leur porte. J'en dis pas plus. En tout cas, tout dans ce roman peut vous plaire. D'abord, il y a une écriture, c'est dense, ça fourmille de détails, c'est terriblement bien écrit, c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Hein. Et puis, comme dans votre œuvre, on y trouve plein de fantômes. Et puis, il y a le destin de ce héros malmené par le cours de la grande histoire. C'est vraiment un roman magistral, nous, qui a été validé par des dizaines de lecteurs à l'Amandier. Donc, je vous l'offre, cher Hubert.
Merci.
Voilà, c'est Les enfants de la Volga de Gouzel Yaknina, c'est ça ?
Exactement.
Chez Phébus. Et merci. Katia Courteau, la symphonie atlantique, vous a vous aussi fait pensez à un de vos livres coup de cœur.
Oui, Lilia. En fait, l'atrocité de la guerre, vaincue par la force sublime de la musique dans votre roman, Hubert Haddad, oui, m'a fait repenser au très beau livre « Le pianiste » de Vladislav Spinman, mm-hmm, qui m'avait aussi bouleversée et émue. L'histoire de ce jeune pianiste d'origine juive qui va survivre à l'horreur de la guerre dans le ghetto de Varsovie est portée par une écriture sobre, ceci dit. C'est différent tout à fait de l'éventail que je pourrais dire de votre langue, mm-hmm, de votre langue si romantique, mais tout aussi bouleversante. Et tout comme le pianiste qui a été adapté au cinéma par Roman Polanski, votre symphonie atlantique ferait un film grandiose.
Merci. Merci Katia. Hubert Haddad, vous avez forcément vu ou lu Le pianiste.
Oui, oui, oui.
Est-ce que cette comparaison vous plaît ?
Oui, il y a... Il y a beaucoup d'échos avec beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de films, de romans, de nouvelles, même de musique. Un livre ne surgit pas de rien, il est dans une chambre d'écho lui aussi.
Merci Hubert Haddad, c'est la fin de cette émission. Je rappelle le titre de vos livres, Le magasin d'écriture et la symphonie atlantique, qui a reçu le prix Montluc Résistance et Liberté récemment. Deux livres publiés tous deux aux éditions Zulma. Le nouveau magasin d'écriture dans lequel on trouve cette citation magnifique d'Elias Canetti sur les vertus de l'écriture. Écrire jusqu'au moment où le bonheur d'écrire vous fait douter de votre propre malheur. Merci pour merci, cette phrase sublime. Voilà pourquoi on aime écrire et pourquoi on aime lire aussi. On pourrait intervertir les deux verbes. Merci infiniment Hubert Haddad et merci encore à nos libraires du jour, Thomas Auxerre et Katia Courteau. Je rappelle que cette émission est en coproduction avec les médias francophones publics en Suisse, en Belgique et au Canada. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Théo de Lobadère à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine car la radio ne dort pas dans ce studio du Radna.